Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
C'est la plus belle.
Neuf heures passées de 45 secondes à la pendule de la plus rebelle des radios. Vous êtes dans le Canu Info du jeudi avec l'équipe du jeudi, donc Delphine.
Salut à toi.
Et Laurent pour donc cette heure d'information hors couvre-feu, puisque ça ne commencera que samedi et que de toute façon nous faisons 19-20 heures, donc nous n'allons pas être brimés par ce couvre-feu. Donc voilà.
Ça ne va pas empêcher à la radio de devoir encore une fois se réinventer.
Ouais, ou s'adapter.
Ou s'adapter, voilà. Non, mais c'est vrai, hein, ça, on est aussi touché, puisqu'il y a un certain nombre d'émissions. Par exemple, moi, je connais une émission de métal qui pleure ouais, en se demandant comment cette émission va s'organiser. Mais c'est le cas de toutes nos émissions.
On va se débrouiller.
Finalement, après 20h, puisque quand on s'arrête à 21h. Voilà, on vous rappelle que si ça nous pose des questions, c'est que nous, on n'est pas salariés de Radio Canu et que donc, en tant que bénévole d'une radio associative, on n'est pas dans les cases qu'il faut bien cocher.
Ouais,
donc
on rentre dans aucune case. On serait salarié de Radio Canu, on aurait une autorisation et là on est hors cadre. Mais bon, on va voir.
Non, on préfère ne pas être salarié de Radio Canu et se demander comment on va faire.
Exactement. Donc on va parler. Alors je sais pas ce que c'est une intro que tu vas faire. Ouais. Ensuite on va parler santé, histoire internationale, ni Dieu ni maître, un peu de nucléaire, beaucoup de nucléaire, un peu d'alimentation et de BD. Donc voilà, c'est le programme chargé de cette émission. On y va, c'est parti. Vrai problème, mauvaise réaction, bonne action. De quoi vas-tu donc nous parler?
Alors c'est un peu en réaction évidemment à tout ce qui est en train de se passer et l'utilisation évidemment des réseaux sociaux de certains et de certaines. On a vu fleurir sur les réseaux commerciaux un certain nombre d'images qui viennent commenter les décisions de la Macronie. Alors la Macronie, nous, on rappelle, on la critique.
Ouais. Tu veux dire qu'on a déjà atteint le point Goldwyn avec en une demi-seconde en fait?
Ouais, c'est ça, c'est qu'on voit des bars, des bistrots, des lieux associatifs utiliser des images de Pétain, par exemple, avec le couvre-feu qu'a pu vivre la France à cette époque, pour la comparer à ce que la Macronie est en train de faire. Et alors là, moi je me dis, je pense qu'on a loupé quelque chose. C'est-à-dire qu'on a la chance quand même, sur un certain nombre de générations, de ne pas avoir une dictature de guerre, de conflits armés sur le sol du territoire de l'Hexagone, j'entends. Et on reste dans une démocratie, même si aujourd'hui, la Macronie, comme Sarkozy et comme les autres, ont l'habitude de nous proposer des lois liberticides. Et ça, on en est bien conscients et conscientes tous les deux. Et on espère que vous aussi. Mais il faut quand même redescendre un petit peu et prendre la peine il nous semble de nous battre pour les vrais problèmes, parce qu'on voit aussi des gens nous sortir donc ces comparatifs entre l'Allemagne nazie, le fascisme et la France de 2020. Et là, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, surtout quand c'est juste pour défendre l'économie. Quand c'est pour défendre son beefsteak, son resto, parce que on n'est pas d'accord. Alors, on a le droit de ne pas être d'accord, évidemment, avec ce qui est en train de se passer. C'est même pas de ça dont je veux vous parler. C'est juste qu'il y a un moment, il faut arrêter de se dire gauchiste, gaucho, libertaire, et prenez le pognon plutôt qu'une lutte contre la maladie, par exemple. Sous couvert qu'il faut garder son établissement ouvert, sans même se demander parfois ce qu'en pensent les salariés.
Ou qu'il faut défendre le droit d'aller consommer dans ces lieu privé.
Ce qui est marrant, c'est qu'on ne voit pas autant les gens se battre pour le droit de circulation des migrants, par exemple, et des migrantes. Mais là, on va nous dire, avec des réponses d'extrême droite, « Oh, mais c'est pas pareil, tu sais, les migrants, les migrantes, peut-être qu'on en a trop. »
Oui, mais...
Peut-être qu'on ne peut pas tous les accueillir, hein ?
Mais en même temps, tous ces gens qui ne sont pas contents de ce confinement, qui disent « C'est dégueulasse de fermer les bars », on ne les a pas vus dans la lutte aujourd'hui pour défendre l'hôpital public.
On va en revenir là-dessus. Mais on ne les voit pas non plus, parfois. Alors, vous allez me dire peut-être que si, moi j'y étais. Et j'entends. C'est bien. Simplement, pas la peine d'utiliser la face de Pétain.
Ouais, ça me fait vomir.
Face,
ça.
À la face de M. Macron, ça n'a aucun intérêt. On ne vous voit pas pour la sauvegarde de nos retraites ou du droit au chômage. Mais là encore, petit patron que tu es, tu t'intéresses pas trop à ce que ton salarié fasse une grève pour aller défendre les retraites. Tu ne fermes pas ton établissement pour permettre à tes salariés d'y aller en toute solidarité. Mais on te voit pas forcément dans la lutte pour le droit des femmes, la lutte contre la corruption. Parce que la corruption dans notre pays, on a beau être en démocratie, elle existe chez nos élus. Et ça, il faudrait pouvoir se battre contre cette corruption. Le droit à manifester, la lutte contre les violences policières. On a beaucoup de blabla. Et beaucoup de blabla qui se portent sur, nous trouvons dans cette émission, sur des mauvais sujets et c'est des mauvais choix. Et c'est peut-être un petit peu le problème qu'on a depuis quelques années, hein, maintenant. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup des gens critiquer, s'offusquer, mais l'action, elle est peu là. Alors, on a heureusement des gens qui sont là et qui continuent à agir et à pas juste balancer sur des réseaux commerciaux...
Des commentaires, des images
complètement stupides. Et oui, la Macronie, elle a beaucoup de mal à se sortir de cette crise sanitaire.
Ouais, alors, pour
les
coup,
exemples sont extrêmement nombreux.
Ouais, tous les pays ont du mal à sortir de cette crise sanitaire.
Là, on a des nouvelles mesures qui arrivent. On sait qu'il va y avoir du temps pour que les décrets, les ordonnances viennent jusqu'à nous. Hein, donc c'est très compliqué. On a d'un seul coup dit au bar, vous devez fermer. Alors là, on a eu une espèce de flou hein, qui a permis à des gens qui avaient un code NAF, APE, vous savez ce que c'est, c'est-à-dire que c'est votre, ça définit votre activité, avoir un code restauration traditionnelle, mais en fait ne servir en vrai, hein, et c'est connu par tout le monde, de la bière et des paquets de chips.
Tu veux dire que ça a beaucoup triché, oui.
Non, mais c'est même pas ça, c'est que les gens se sont saisis aussi de ce qu'on leur offrait. Est-ce que c'était ton activité qui prenait ? Est-ce que c'était ta déclaration de ton cabis ? Tout ça, c'était un espèce de flou artistique qui n'a pas vraiment aidé. Et ce flou, il est là depuis le début, et en particulier sur le secteur économique, qu'on pourrait beaucoup critiquer. On a encore entendu que l'activité partielle allait être prise à 100%, mais c'est pour le patronat.
Oui, pas pour forcément pour les salariés.
Eh non, les salariés, toi mon ami, si jamais tu travailles dans la restauration, tu vas encore perdre une partie de ton salaire. Parce que, n'oublions pas que l'employeur peut te faire un maintien de salaire. Il peut te donner ton salaire en entier, évidemment.
Et puis on rappelle que, notamment dans la restauration, il y a une partie du salaire qui est en pourboire. On l'oublie aussi, et c'est pas tenu compte non plus par les maintiens de salaire, même par le patronat. Donc, effectivement, c'est un petit peu facile.
On peut critiquer plein de choses. On peut critiquer aussi les exonérations de charges, par exemple. C'est bien beau d'enlever des cotisations patronales sur l'URSSAF, hein, de leur dire « Ouh là là, on va vous aider ». Mais à un moment, ça marche pas bien. Par contre, il y a des gens qui demandent de l'aide. Hein. C'est ce qu'on appelle, par exemple, les travailleurs non salariés. Vous savez, ces gérants qui se font, en général, du beurre sur la bête. Mais qui, là, en ce moment, quand la bête, elle est fermée, bah, la bête, il n'y a rien à en tirer. Hein. Donc, il n'y a pas d'argent. Donc, on aurait mieux fait, peut-être, de nainer et d'aider certains et certaines qui, aujourd'hui, effectivement, vont faire vivre une économie. Hein. C'est ce que les libéraux nous disent. On ne va pas dire le contraire. Mais en même temps, on aide un peu tout le monde, on donne un peu des sous, c'est un peu de partout. Et rien n'est bien clair, mais par contre, c'est comme ça qu'il faut peut-être aussi agir, c'est être un peu plus clair. Et aujourd'hui, on voit des gens qui font des choses et qui agissent, vraiment, et qui se font rentrer dans le large. On va prendre deux exemples. Vous avez donc tous et toutes appris qu'une dentiste avait été mise en avant par le groupe Antifa de Lyon.
Ouais, big up les gars.
Ouais.
Bravo.
Et les nanas.
Ouais, enfin, les, pardon, voilà, les militants, les militantes antifa, vous avez été très très forts.
Donc, ils ont donc fait savoir qu'une chirurgienne dentiste qui exerçait à Satonécamp, puisqu'elle va être
licenciée,
avait donc des tatouages nazis, hein, pour le coup, je veux dire, oui, difficile de s'y tromper.
Zyklon B, Heil Hitler, là, avec les fameux 8-8 ou des choses comme ça.
Ce qui est intéressant, c'est que les gens leur reprochent d'avoir balancé cette femme avec des arguments que je trouve absolument... assez nul, c'est pas bien, il faut pas comme ça désigner les gens. On parle de quelqu'un qui fait partie de groupes profondément violents et profondément racistes.
Oui, et on rappelle que défendre les idées nazies, c'est-à-dire le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc effectivement, l'attitude des antifa a été plutôt salutaire. D'abord, elle a permis... Alors, on est contre les licenciements, mais celui-là, pour le coup, ça nous a fait plaisir. Parce que voilà, c'est inadmissible qu'elle mette en avant son idéologie politique nauséabonde et qu'elle prône, ce qui est donc interdit par la loi, ce racisme porté par ce nazisme, puisque c'est du nazisme dont il est question. Le Zyklon B, c'est bien le gaz utilisé par les nazis pour assassiner des millions de juifs. Ça n'a pas servi à autre chose. Hein. Donc voilà. Donc effectivement, moi j'ai trouvé l'action des antifas salutaire.
Et autre... et là, je veux dire, là pour le coup, le nazisme, il a toute sa place à être dénoncé et mis en avant et utilisé. Arrêtons d'utiliser le fascisme pour tout et n'importe quoi. C'est un peu comme quand on traite de facho, alors que, bon, voilà. T'es juste pas d'accord avec quelqu'un. Et puis, autre collectif qui fait beaucoup, beaucoup parler ces derniers jours, c'est le collectif La Ronce.
Ouais.
Qui fait ce qu'on appelle simplement le sabotage.
De l'action directe. Comment alors, là, ils ont été médiatisés, mais on a beaucoup fait ça dans les années 80, les mouvements écolos, radicaux.
Beaucoup pratiqué du sabotage tout simple, en particulier le dégonflage
de pneus. Alors, ou la libération de l'air emprisonné dans les pneus.
Tout à fait. C'est comme le démontage de McDo, ce n'est pas la même chose qu'une destruction.
Voilà,
tout à fait. Il faut savoir utiliser aussi, parfois, un certain vocabulaire. Donc là, on a aussi des gens qui se sont fait attaquer en disant « Mais vous faites absolument n'importe quoi. Comment ça vous risquez de tuer des gens en dégonflant un pneu ?» Vous savez, il faut... Alors, ils ont sorti une... Ils et elles ont sorti une petite vidéo en 5 façons de faire chier le monde, globalement. C'est pas comme ça que ça s'appelle, mais ça revient à ça.
Dont
la méthode du petit caillou...
Voilà, de faire chier, on rappelle les pollueurs qui...
Ils s'en prennent au SUV.
Voilà, rappel, hein, c'est 60 000 morts, la pollution atmosphérique en France chaque année par les SUV et les autres. Hein. Les SUV, c'est vraiment symptomatique, comme nous à l'époque où d'autres gens attaquaient les 4x4 à l'époque. Aujourd'hui, c'est les SUV, c'est la même démarche, effectivement. Attaquer le véhicule qui commet un crime, puisque finalement on sait que c'est des crimes d'émettre des particules cancérigènes et des gaz toxiques, bon voilà, c'est pas si mal que ça.
Alors il y a aussi cette opération contre les produits industriels, donc enlever le bouchon d'un paquet de sucre, même si vous avez le petit clapet dessous, c'est plus vendable vu qu'il est plus correct. Déboucher aussi les bouteilles de coca, enfin ils se sont lancés dans de tas d'aventures, ouais. Appelle du sabotage, qui est évidemment là pour détruire une certaine des pratiques industrielles, donc ils s'attaquent à des choses très très précises. Ce qui est évidemment ce qu'il faudrait surveiller, c'est qu'un petit peu comme le groupe Antifa, il y a des enquêtes qui sont menées, des plaintes qui sont déposées, et on espère que les militants et les militantes de ces collectifs n'auront pas trop de soucis pour leur engagement militant, parce que là il y a quand même un engagement très très fort qui est au-delà d'une simple réaction ou commentaire sur des réseaux sociaux. Les gens ne s'offusquent pas dans ces groupes, ils vont au-delà. Et c'est peut-être ça, effectivement, qui demain sera vraiment porteur. Et toi, tu avais envie de parler d'une mobilisation aussi?
Oui, je voulais parler de la mobilisation des soignants et des soignantes. Aujourd'hui, différents collectifs appelaient, et syndicalistes appelaient à la grève. Et voilà, il y a eu pas mal de mobilisations en France, à petite échelle, malheureusement. Est-ce que ça marche correctement?
Oui, tout à fait, je t'entends. Oui.
Tout à fait, parce que moi, ça navigue de droite et de gauche, moi, sur mon... Je voulais pas que mon micro ne marche pas bien.
Non. Donc, tu me disais que tu voulais nous parler de la mobilisation qui avait eu lieu aujourd'hui, dans les rues. Alors...
On va parler, ça marche pas. Je suis pas sûr que tu aies
un peu tout seul. Alors, écoutez, on va remettre les bandes continues et puis on va regarder.
Mais parle. Qu'est-ce que tu fais?
Alors voilà, j'ai repris un autre micro qui marche un petit peu mieux, mais il faut vraiment que tu meubles le temps que je règle le problème technique, s'il te plaît.
Alors, on va passer à autre chose. J'aurais pu vous dire aussi que vous auriez pu vous intéresser à la double page de Charlie Hebdo de cette semaine, du 14 octobre, sur les suprémacistes aux États-Unis d'Amérique, hein, ce qui est appelé les chevaliers très blancs de l'Amérique de Trump. C'est pas mal, c'est fait un petit tour des mouvements des sales racistes. C'est assez synthétique, mais ça nous donne bien une idée de ces mouvements assez violents pour certains, d'autres qui sont plus dans un travail de propagande au long terme, mais c'est aussi des mouvements souvent très masculinistes qui sont intervenus ces derniers mois sur un certain nombre de rassemblements antifascistes contre la violence policière, qui sont là aussi très présents sur les rassemblements de Trump. Voilà, je trouvais que c'était aussi un bon explicatif de ce qu'on peut trouver aussi aux États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a des liens entre tous ces groupes à travers le monde, hein. On sait qu'il y a des liens en Europe, mais il y a aussi des liens entre les États-Unis d'Amérique et la France, par exemple, où les gens se baladent pour continuer évidemment leur violence, essayer d'avoir de plus en plus de gens qui viennent, hein, qui fait, il y a quand même des endroits où ces organisations ont des rangs qui se grossissent au fur et à mesure. Alors, heureusement, hein, chez les antifas aussi, mais c'est vrai que c'est la facilité aussi des discussions sur les réseaux sociaux qui permet aussi un petit peu tout ça.
Oui, alors je vais revenir sur la mobilisation des soignants et des soignantes. Donc on rappelle que c'était à l'appel du différents collectifs. Alors il y a les syndicats, la CGT, Sud, enfin voilà, plein de gens. Et puis plein de collectifs, le collectif Interbloc, Interurgence, le Printemps de la Psychiatrie, la Coordination Nationale. Ils ont commencé un combat il y a plus d'un an et demi, ces gens-là, pour sauver l'hôpital public. Et aujourd'hui, bah, c'était la continuation, ce jeudi 15 octobre. Et malheureusement, ça n'a pas été beaucoup relayé, parce que les médias ont surtout relayé le discours de M. Castex. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, que les promesses de Macron, c'était que des promesses. On se rappelle du début de la crise, des mensonges du gouvernement sur les masques, sur tout ça, des problèmes des soignants qui sont en première ligne, qui d'abord chopent la maladie, qui meurent. Hein, c'est une des professions qui a eu le plus fort taux de mortalité dans cette maladie. Et après la sortie du confinement, on s'était tous dit, avec le Ségur de la Santé, ce fameux nom obscur pour dire on va résoudre les problèmes, que le gouvernement allait s'attaquer aux différents problèmes. Le premier, c'était le nombre de lits qui était en réanimation, qui n'était pas forcément suffisant. Alors c'est la première grosse épidémie qui touche les voies respiratoires et qui entraîne des gens à être hospitalisés et à passer en réanimation ensuite. Donc on n'était pas prêt parce qu'on avait fermé des lits qui semblaient inutiles et qui était inutile d'un point de vue économique, mais pas forcément d'un point de vue sanitaire. Donc là, on s'est dit, ils ont compris, la pandémie, elle n'est pas terminée, on en a encore pour au moins un an, on va doubler les lits, on a 6 mois pour doubler les lits. Ils n'ont rien fait là-dessus, ils ont même continué quelques fermetures. Et puis, il y a le problème des salaires, où aujourd'hui, les salaires sont tellement bas que la fonction publique, notamment hospitalière, n'attire personne, ou moins de gens. Et on a le cas aujourd'hui, hein, puisqu'il y a 34 000 postes vacants d'infirmières en France, et personne ne veut y aller. Voilà. Alors, bien évidemment, tous les anti-masques, tous ces militants anti-mesures sanitaires, eux, ils se gardent bien d'aller aider les soignants qui morflent à l'hôpital. Ça, ils sont tellement égoïstes qu'ils n'en ont rien à faire. Mais le gouvernement non plus. Donc, on est dans une situation un peu ubuesque où on a besoin de soignants parce que la maladie, la pandémie, elle est toujours là et qu'on a quand même des lits en réanimation qui commencent à être bien pleins. On rappelle qu'il y a des opérations qui sont annulées, des gens qui auraient dû se faire soigner et qui ne peuvent pas à cause des contaminations excessives et du manque de tout, en fait, des imbéciles qui font exprès de jouer en respectant pas les règles sanitaires, et puis le gouvernement qui n'a pas mis les moyens. Et du coup, on est dans une double situation comme ça qui rend la situation insupportable et qui entraîne du coup des brimades ou qui entraîne des fermetures ou qui fait qu'on se retrouve avec un couvre-feu dans quelques heures. Quelques jours, on va dire. Donc voilà. toujours en lien avec ce coronavirus, un truc plutôt sympathique, même si ce n'est que symbolique, puisqu'on a appris que des perquisitions avaient eu lieu au domicile et au bureau du ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors c'est dans le cadre d'une information judiciaire sur la gestion de la crise justement de ce coronavirus. Il y a eu aussi Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, et puis la célébrissime porte-parole du gouvernement, la précédente, là, Sivette Ndiaye. Ils ont été donc perquisitionnés pour vérifier si les flics et la justice pouvaient trouver des infos sur la mauvaise gestion de la crise sanitaire. Nous, on a plein d'infos sur la mauvaise gestion, mais il faut des preuves comme quoi ils auraient eu des informations avant et qu'ils n'auraient pas mis les mesures en œuvre. Ce qui est facile à démontrer, je pense. Voilà. Donc, c'est une information judiciaire qui est ouverte par la Cour de justice de la République sur la gestion du Covid. Le motif, le chef d'accusation, c'est abstention de combattre un sinistre. C'est passible de 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. Alors, ça arrive aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'annonce de Macron d'hier ou l'annonce de Castex d'aujourd'hui. Hein, c'est le pur hasard de la justice que ça tombe au moment où on a un durcissement, où on a tout ça. En tout cas, ils vont essayer de mettre en évidence les mensonges. Grosso modo, on n'a pas beaucoup d'espoir. C'est une action qui découle des dizaines de plaintes. Alors très exactement, 84 plaintes avaient été déposées contre les membres du gouvernement pour la mauvaise gestion de la crise sanitaire. La justice, la Cour de justice de la République, pour être précis, n'en avait retenu que 9. Et dans ces 9-là, donc, c'est ces 9-là qui font qu'aujourd'hui, il y a ces actions en justice. Il n'y a pas beaucoup d'espoir qu'il y ait des condamnations, mais symboliquement, ça fait toujours plaisir quand il y a une action en justice contre ceux qui ont raconté d'énormes mensonges. Et là, pour le coup, il y a des preuves. Hein. Vous avez les vidéos de Sivette Ndiaye qui dit que le masque est inutile. Vous avez le gouvernement qui dit que le masque est inutile, alors qu'aujourd'hui, ils ont le discours inverse. Alors qu'on avait l'information dès le départ que le masque était très utile. De toute façon, on le sait depuis longtemps en médecine hein, que le masque sert à protéger des transmissions virales, notamment. Hein. Les chirurgiens en mettent chaque fois qu'ils opèrent. C'est pas juste pour avoir qu'on les reconnaisse pas. Quoi. C'est pas ce problème-là. Quand on est dans une salle d'opération, les masques sont beaucoup plus intéressant pour les manifestants face à un gouvernement répressif comme on a, mais beaucoup, voilà, c'est pas le même rôle en fait pour des questions sanitaires. Enfin voilà où on en est aujourd'hui, une petite action en justice, j'espère que ça ira un petit peu plus loin, mais on n'a quand même pas énormément d'espoir. Tu vas nous faire des histoires internationales ?
Alors, encore, on va déjà parler du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, hein. C'est toujours un grand moment, ce machin. Ouais. Puisqu'on a toujours
Oui, parce que tu sais, l'Arabie Saoudite avait été. Il y avait un truc avec l'Arabie Saoudite.
Ouais, bah là, l'Arabie Saoudite n'a pas réussi à devenir membre.
Ouais, c'est ça.
Petit rejet. Beaucoup de travail de lobbying pour un échec. Donc ça rassure certains observateurs des droits humains à travers le monde.
Ouais, parce que c'est. Alors, c'est pas le premier pays totalitaire à essayer d'en faire partie. Il y en a même qui en font partie quand même.
Alors, la Chine a été réélue.
Voilà. La Chine, qui est quand même un pays totalitaire, vous appelez votre copain ouïghour, si vous avez un copain ouïghour, ben non, vous ne pouvez pas l'appeler, il est dans un camp.
Alors, voilà, il paraît qu'il y a un peu moins de gens qui ont voté, 139 votes pour, alors que la dernière fois, c'était 180. Oui. Ça reste quand même beaucoup. Mais après, tout ça, évidemment, est affaire d'alliance. Vous savez que c'est une institution qui est beaucoup critiquée pour son fonctionnement, à quoi ça sert. Blablabla. Mais c'est vrai que les pays participants sont quand même un peu curieux. On y retrouve la Russie et Cuba. Hein, Cuba, grand pays démocratique aussi, c'est bien connu.
Bah, la Russie, il y a une pseudo-démocratie aussi, plus qu'à Cuba, oui.
Voilà. Mais enfin, c'est la Russie qui a un certain nombre de violences. Les droits humains sont quand même bien malmenés en Russie.
Oui. On peut le dire.
On peut le dire. On y retrouve aussi des pays comme l'Ouzbékistan, par exemple, qui tentent une démocratie. Donc, est-ce que c'est un signe de... Il faut aller plus loin, l'Ouzbékistan, pour une démocratie ? Ou est-ce que c'est une ouverture un peu facile pour un pays qui tente de nous faire croire que ça va aller mieux ? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. Je vous laisse y réfléchir toute la soirée. Vous avez tout le couvre-feu pour jusqu'au 1er décembre pour vous poser ce genre de questions. Donc voilà, ça fait un peu râler quand même de voir que la Chine, la Russie, Cuba, je cite que ces trois-là, arrive quand même à être représenté dans une telle institution, même si on peut vraiment beaucoup critiquer son fonctionnement, là quand même ça fait juste un peu vomir, surtout que encore une fois, là où on pourrait dire que des pays pourraient peut-être participer et aller vers le mieux, on les encourage. Ce qui concerne la Chine, on va pas bien. Quant à Cuba, on attend toujours aussi un petit peu, hein, voilà. Et puis la Russie de Poutine, c'est quand même
pas top.
C'est pas top, pas top. Alors, toute autre chose maintenant. En Thaïlande, vous savez qu'il y a des mouvements contre le royaume.
Assez impressionnant, quand même.
C'est assez impressionnant, hein. Les gens sont dans les rues de Bangkok. Les militants et les militantes, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes sont descendus et espèrent pouvoir descendre encore. Simplement, on a appris qu'il y avait un état d'urgence qui était appliqué à partir de ce jeudi. Donc, ça va être compliqué de redescendre dans la rue pour ces manifestants et ces manifestantes. L'idée, c'est de contester quand même ce royaume qui prend ses aises, hein. Je vous rappelle qu'on a un roi qui se balade pas mal entre son pays et l'Allemagne, qui est accusé aujourd'hui par les autorités allemandes de diriger son pays dans un palace à l'autre bout du monde, c'est-à-dire en Allemagne, et que ça commence un petit peu à se voir. Donc l'idée, c'est aussi d'amener là une démocratie en Thaïlande et le respect des droits humains. Et surtout de s'attaquer au royaume, comme je le disais. Il faut savoir que si on a l'état d'urgence qui est venu s'appliquer, c'est pas juste parce qu'il y a des gens dans la rue, c'est parce qu'ils ont gêné le cortège royal et que ça n'a pas plu aux autorités, bien évidemment, qui pourtant avaient sorti ses favoris, si vous voulez. Donc il y avait un petit groupe de gens qui étaient là pour dire « nous, on aime nos rois ». Et donc, on est là dans la rue pour soutenir notre bon roi, et qui souhaitait s'opposer parfois avec les mains à ces militants et militantes pour la démocratie en Thaïlande. Ça ne s'est pas bien passé. C'est vrai que le cortège royal a dû s'arrêter, a été invectivé. En Thaïlande, vous savez, s'en prendre au royaume, à la royauté, c'est mal vu, ça peut vous emmener en prison.
Oui, c'est plus que mal vu, oui.
On enlève même, ça vous emmène en prison. Donc voilà, c'est une affaire à suivre, évidemment, parce que ça fait partie de ces pays qui, de temps en temps, essayent de réagir. Mais là, il y avait un gros mouvement. Alors, les critiques qui sont amenées à ce mouvement, c'est que c'est un mouvement qui va manquer d'un appui de partis politiques pour pouvoir exister à plus long terme. Enfin, moi, je dis, hein, une révolution, c'est une révolution. Vouloir tout de suite critiquer sur qu'est-ce qui peut se passer après, c'est bien dommage. Il faut d'abord peut-être être dans la rue, être au-delà de la rébellion et aller à la révolution pour tenter d'arriver à quelque chose, hein, voilà. Et puis il y a des leaders comme dans toute révolution, hein, donc voilà. Une histoire qui n'a absolument rien à voir. On va parler de un petit peu d'économie à l'autre bout du monde. On a appris que un objet volé avait été retrouvé. Il avait été vendu, cet objet, a priori pour ce qui serait l'équivalent de 55 euros au marché noir. Il s'agit d'un poème d'une célébrité décédée, chinoise.
Mao.
Voilà. Ce parchemin, je dis machin parce que c'est Mao et que c'est quand même pas un gars bien, hein, faut s'en souvenir, à tous les maoïstes qui pourraient encore exister.
Non, c'est fini ça.
C'est fini. Mao Zedong a fait du poème, il faut le savoir.
Ouais.
Une passion dans sa vie, ouais, après écraser les êtres humains qui voulaient se rebeller. Il avait une deuxième passion, c'était donc la poésie. Non, peut-être qu'il avait d'autres passions, mais en tout cas, il avait une passion, c'était la poésie. Et il y avait donc un rouleau, un parchemin de 3 mètres qui a été volé à un collectionneur. Ce machin est estimé, je dis machin parce que quand on arrive à des sommes pareilles, je ne sais pas comment on peut appeler une telle chose, à 250 millions.
Ah oui, un truc, oui.
Mao Zedong, il a les objets qu'il aurait pu laisser. C'est un peu comme Kurt Cobain, si tu veux, ils sont pulls à trous. Ouais, c'est des objets, on se demande. Il y a des gens qui sont très très fans et qui cherchent. Et donc sur Mao, on cherche ces objets. Il y a un vrai culte à détenir des objets qui lui auraient appartenu, et d'autant plus un parchemin avec une poésie calligraphiée dessus.
D'accord. En fait, mais Kurt Cobain n'a tué personne, en fait. C'est mieux,
oui,
quand même.
C'était juste pour dire qu'il y a des gens qui sont des fanatiques.
Ouais.
Oui, je rappelle, le fan. Fanatique, hein.
Oui, c'est l'abréviation.
Voilà. Et qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent dans certaines choses. Et donc, on avait ce collectionneur.
Et alors, il y a des vrais fans de Mao, quand même, dans le monde.
Hein ?
Il y a des vrais fans de Mao, des maoïstes.
Alors, en tout cas, il y a des collectionneurs.
Oui.
qui aime détenir des choses. Tu sais, le collectionneur n'est pas forcément un adorateur de
l'idée politique,
l'artiste, oui. du créateur ou de la créatrice, mais peut être aussi heureux de posséder un objet qui... Si tu veux, il y a des gens, par exemple, ils achètent très, très cher des bouteilles de vin sans jamais les goûter. Oui. Mais juste pour le plaisir de la posséder. Et ben là, c'était peut-être l'idée. En tout cas, ce collectionneur s'est fait dérober tout un tas de trucs, dont ce parchemin qui donc s'est retrouvé sur le marché noir a été acheté pour que dalle, et tellement pour que dalle que le monsieur qui l'a, qui est a priori d'après la légende urbaine, est allé de lui-même à la police à Hong Kong restituer les choses, avait découpé en deux. Le parchemin qui est donc toujours découpé. Je peux enlever le passé. Il a découpé parce que c'était pas pratique.
Ah oui, lui, le respect de l'œuvre, il savait pas ce que c'était.
Mais en fait, non, voilà. Il pensait que c'était un faux. Mais il trouvait ça sympa.
Bah oui.
Voilà. Donc, c'est, on trouve de tout au marché noir, à l'autre bout du monde. Et puis, pour continuer avec l'économie, je voudrais revenir sur BTS, dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Vous savez,
le groupe de K-pop, là, tu veux dire
En Sud-Coréen, tout à fait. Qui donc, je vous disais.
Ils sont rentrés en bourse, c'est ça, tu veux dire?
Ouais, c'est le label, Big Hit Entertainment, qui à la base petit label de K-pop par rapport aux autres qui étaient sur le marché, fait un tabac avec BTS et décide donc de rentrer en bourse, de valoriser son existence, comme on dit. Une capitalisation boursière absolument délirante. On parle en milliards quand même d'euros, c'est un truc de fou. Il faut savoir que chacun des membres a récupéré une partie des actions. Donc déjà, ils sont tous riches, mais alors encore plus que riches. Ils l'étaient, mais là, c'est gigantesque. Le fondateur Big Hit, Bang Se-kyuk, donc lui, il a a priori toujours une participation de 36% et il représenterait plus de 3 milliards d'euros.
Oui.
Oui, on parle en milliards. C'est absolument délirant. Alors, la capitalisation boursière, elle est énorme. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des gens qui investissent, des entreprises, mais il y a aussi plein de particuliers, des fans, qui ont voulu détenir quelque chose de BTS.
Oui, et donc, les Rolling Stones, tout ça, ils ont merdé, ils auraient dû rentrer en bourse aussi à l'époque.
Oui, mais c'est le, voilà.
Le capitalisme, c'est dingue.
Bah, c'est le fanatisme et le capitalisme mélangé t'amène à acheter des actions.
De ton groupe préféré.
Du label de ton groupe, en tout cas. Là, il y a un truc, moi, qui m'échappe, vous voyez. Mais en tout cas, ce qui fait que ça a très, très bien fonctionné. Moi, j'ai lu des chiffres que je ne vous avais pas dit la dernière fois, mais il paraît que 800 000 touristes sont allés en Corée du Sud pour BTS.
Ah oui.
Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente quand même. Le tube Dynamite, dont je vous ai parlé la dernière fois, j'espère que vous avez tous eu toutes eu le temps de bien le voir. J'espère que tu l'as regardé.
Non.
Non, voilà. Génère quand même 1,4 milliard de dollars. Là, je ne l'ai pas en euros, je l'ai qu'en dollars. Vous faites le petit calcul. Pour l'économie sud-coréenne. Donc, c'est gigantesque. Et cette capitalisation boursière, 6,5 milliards d'euros. Voilà, c'est absolument incroyable. L'art.
Ouais, oui, et le business.
Et le business, quand ça cartonne ensemble, et ben moi je vous le dis, c'est gigantesque.
Alors 19h31, la pendule la plus rebelle des radios. Nous continuons ce Canu Info sans les problèmes techniques du début. C'est mieux. Un câble débranché, ça arrive. Hein. Mal branché.
Là, je vais me moquer pendant 3 jours, je pense.
Ouais, c'est le truc qui était mal. Enfin bon, bref. Nous poursuivons donc avec un son correct. Et avec une micro-rubrique ni Dieu ni maître sur. Alors c'est une pub qui montre une femme hindoue. Qui est enceinte, qui arrive dans la maison de sa belle famille, donc de la famille de son mari, qui est d'une autre religion, pour le coup musulmane. Cette dernière, donc la famille musulmane veut lui rendre hommage, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle organise une fête hindoue pour rendre hommage à la femme de leur fils qui est de l'autre religion hindoue. Donc c'est un truc bisounours, c'est gentil, on organise une fête dans l'autre religion. C'est, voilà, c'est un beau truc publicitaire pour vendre, je sais pas quoi, c'est la marque qui s'appelle Tanishq. Le problème, c'est que célébrer l'harmonie entre les peuples, entre les religions, entre les gens, tout ça, c'est hyper mal vu en ce moment en Inde. La tolérance, c'est quand même le truc détesté par les hindouistes, notamment. Donc, ils ont lancé une énorme campagne contre cette marque, notamment sur Twitter, avec les trucs habituels. On crée des faux comptes pour relayer l'information en masse sur les réseaux commerciaux ou sociaux. On les appelle comme on veut. Ensuite, une fois que le buzz est pris, les médias, notamment hindouistes, relaient l'information parce que ça, voilà, tout le monde est, ça a beaucoup tourné. Ouais, regardez, ils incitent à l'harmonie, tout ça, à l'amour, c'est dégueulasse, les musulmans, ils sont méchants, tout ça. C'est ça le discours simpliste hein, des hindouistes. Et bon, de l'autre côté, l'autre camp, les un peu les progressistes, on va dire, réagissent un peu, ça fait monter le buzz, le bilan, la publicité a été retirée. Voilà, les racistes hindouistes, pour le coup, ont gagné. C'est triste, hein, l'état de l'Inde, ce qui est qualifié souvent de la plus grande démocratie du monde, en termes de nombre d'habitants, c'est le cas, ce nationalisme hindou qui est devenu très très fort par le BJP, le parti de Modi, entre autres, et ils n'arrivent pas à en sortir, et c'est vraiment c'est affolant. Là, c'est moins triste que d'habitude, où on a des massacres, quasi des pogroms contre les musulmans, mais c'est quand même juste symptomatique de ce racisme qui envahit la société indienne. Alors je vais faire une grosse rubrique nucléaire, mon amour, parce que moi le nucléaire c'est de l'amour pour moi. Et je vais commencer par Framatome, j'avais oublié le nom, je pensais qu'il n'existait même plus, mais en fait si, c'est toujours un truc qui est intégré à EDF. Alors on va commencer à faire un petit rappel historique. En septembre 2019, un consortium français est né, il s'appelle Nouard. C'est une réunion du COA, le Commissariat à l'énergie atomique, EDF, Naval Group et Technicatome. Ils ont comme idée de fabriquer, c'est à la mode, un mini-réacteur nucléaire, on appelle ça des SMR. Ça doit vouloir dire small reactor et le M, je sais pas. Bon, bref, un mini réacteur nucléaire. Il s'associe à l'américain Westinghouse. Vous savez, c'est Westinghouse qui a conçu les premières centrales nucléaires en France au tout début, dans les années 60. Et voilà. Donc, ils montent ce premier truc. Et puis, on se dit, tiens, bon, voilà, il y a les entreprises françaises qui cherchent à fabriquer des mini-réacteurs nucléaires. Des fois qu'il n'y ait pas assez de nucléaire partout. Voilà. Et aujourd'hui, une nouvelle news. Donc, c'est Framatome, la filiale à 75% d'EDF, qui vient d'annoncer un nouveau partenariat avec General Atomic Electric Mass System. Donc, c'est une boîte américaine. Pour développer son propre mini-réacteur. Donc, voilà. C'est pour dire que c'est la mode de ces petits réacteurs. Alors la version de Framatome serait de 50 MW, la version développée par le consortium Nouard, c'est un peu plus gros, c'est 170 MW, c'est la puissance électrique fournie par le mini-réacteur à pleine puissance. On en est là. Ce qui est intéressant, c'est la propagande derrière. Comment ils nous vendent ces mini-réacteurs nucléaires? Le nucléaire, ça n'a pas si la cote que ça en ce moment. Mais les nucléophiles ont plus d'un tour dans leur sac, dirons-nous. Et ils disent que ces mini-réacteurs nucléaires, c'est la solution magique pour remplacer les petites centrales thermiques qui marchent au fioul, là, qui fournissent entre 300 et 500 mégawatts, qu'on installe dans les zones loin de tout. Alors c'est marrant, ils disent ça va remplacer les 30 à 50 mégawatts, mais ils fabriquent des trucs de puissance plus faible. Je dis, déjà, il y a une arnaque dans l'argumentaire, ou alors ils vont en mettre plusieurs. Et puis ça va aussi servir au chauffage urbain, à la désalinisation, au raffinage, à la production d'hydrogène, à la métallurgie. Enfin, c'est le bonheur assuré. Ben oui, le problème c'est qu'ils n'ont pas tout à fait tort quelque part, non pas que ça peut servir à tout ça, mais que c'est bien à la mode, ces mini-réacteurs nucléaires. Alors on a tous en tête Rosatom, la boîte américaine russe, qui a sorti son navire avec un réacteur nucléaire qui alimente une ville perdue au fin fond de je ne sais plus quel endroit de Russie, et peut-être la Sibérie. Mais il y a d'autres projets dans le monde. L'Agence internationale de l'énergie nucléaire nous dit qu'il y a 50 projets de mini-réacteurs dans le monde. Bref, c'est inquiétant, on n'a pas fini, on n'est pas sorti du nucléaire. Et le pire dans tout ça, c'est que la France, là, on a donné deux projets. Et pourquoi il y a ce nouveau projet de Framatome? Parce que le gouvernement, vous savez, celui de Castex et de toute la bande, a prévu dans ce fameux plan de relance qu'ils ont annoncé, alors c'est plutôt le ministre de l'économie qui l'avait annoncé, 200 millions d'euros de soutien à la filière nucléaire pour ces petits réacteurs. C'est sûr qu'en ce moment, financer le nucléaire, c'est plus important que l'hôpital. Hein, ça, la démarche du gouvernement nous épatera toujours. Elle reste incompréhensible, si ce n'est qu'ils sont nucléophiles et qu'ils investissent dans le nucléaire plutôt que dans la santé. Voilà, c'est triste réalité. Toujours dans le nucléaire, une belle étude sur pour casser l'argumentaire utilisé par les nucléophiles qui disent toujours le nucléaire est une énergie décarbonée. Bon, d'abord, on sait tous que c'est faux. C'est une énergie moins carbonée que le pétrole ou le gaz, mais qui est carbonée quand même. Et là, c'est une étude très intéressante, qui n'est pas prospective. D'habitude, on se dit, regardez, on fait des calculs et le nucléaire, ça émet tant de CO2, le machin, ça émet tant de CO2 et on compare. Non. Là, ils sont allés plus loin que ça, les chercheurs. Ils ont étudié sur 25 ans les pays qui avaient développé le nucléaire et les pays qui avaient développé les énergies renouvelables. Et au bout de 25 ans, ils ont regardé l'état de ces différents pays et ils ont comparé leur bilan carbone sur la production d'énergie électrique. Et ils ont constaté un truc, donc 123 pays, donc sur 25 ans, c'est entre 1999 et 2014, d'ailleurs ça fait pas 25 ans, ça fait que 15 ans, donc j'ai oublié des années quelque part. En tout cas, ils ont conclu, ils se sont rendu compte que les pays qui avaient le plus gagné en baisse d'émissions de CO2 et de tous ces gaz à effet de serre, c'est les pays qui avaient plutôt investi dans le renouvelable. Alors ils expliquent pas en fait, ils notent une corrélation. Ils n'ont pas trouvé d'argument de cause à effet. Le nucléaire est peu émetteur de CO2, le renouvelable peu, mais deux fois moins encore que le nucléaire, mais la différence, elle n'est pas si importante que ça. Or, en analyse sur ces différentes années, sur ces 123 pays, l'écart, il est énorme. Il est plus important que l'écart entre entre la réalité scientifique. Pourquoi ? Alors, ils ont quelques pistes. La première, c'est que quand les pays qui ont développé le nucléaire, ils ont tout bloqué à côté. Ils ont empêché le développement des autres énergies. Et on a le cas flagrant de la France, hein, où la France est en retard sur le renouvelable, parce que EDF et le gouvernement et les ingénieurs conseillers des différents gouvernements ont développé le nucléaire contre le renouvelable. Donc ça a beaucoup limité et finalement on a ces chiffres très très élevés. Ils n'ont pas d'autres ils n'ont pas d'autres arguments pour expliquer ce qu'il en est. En tout cas, la constatation, alors c'est Andrew Sterling, un des principaux chercheurs de cette étude, qui explique, quoi qu'il arrive, les pays qui ont investi dans le renouvelable ont baissé beaucoup plus leurs émissions de carbone que ceux qui ont investi dans le nucléaire, alors qu'au départ, l'écart, il n'est pas si énorme que ça. Alors peut-être que quand on investit dans le renouvelable, on a une politique plus globale aussi. On se dit, bah, faut aussi peut-être réduire les gaz à effet de serre dans le transport. Il y a peut-être des choses comme ça. En tout cas, c'est flagrant. Les pays nucléophiles baissent beaucoup moins leurs gaz à effet de serre. Voilà. Une belle étude, en tout cas. On continue dans le nucléaire. Allez, on va à La Hague. Tu sais, La Hague, c'est là-haut. Un peu au nord de la France, très au nord de la France.
Est-ce que tu peux secouer la main en l'air?
Ça se voit pas. On n'a pas la vidéo.
Pas. On n'a pas la vidéo encore.
Et voilà. Oui, je suis pas à France Inter. Et La Hague, c'est là où EDF et tous les acteurs du nucléaire. Bah maintenant c'est EDF parce que EDF a absorbé Orano là tout ça avec l'argent du contribuable. C'est là où ils entassent les déchets nucléaires qui sont vitrifiés, ceux qui sont dangereux pendant, on va dire, à peu près 100 000 ans, et qui sont très chauds et qu'il faut faire refroidir. Et il y a donc d'immenses piscines. Et la problématique, c'est que ces piscines sont quasi pleines. Donc EDF a annoncé la mise en service en 2034 d'une grande piscine pour à nouveau du combustible nucléaire usagé qu'il faut laisser refroidir avant d'entreposer à Bure ou ailleurs, enfin en tout cas là où trouvera de la place et où ça craindra pas trop, même si ça craint quand même un petit peu. Donc voilà. Et ils se sont fait pas mal critiquer, c'est assez drôle, par l'autorité de sûreté du nucléaire, donc qui est l'autorité pseudo-indépendante là, qui gère un petit peu le nucléaire et qui dit qui fait plein de critiques sur EDF. Il dit c'est bizarre, votre solution elle a pas l'air terrible, c'est peut-être un peu tard. Faut dire qu'ils sortent les chiffres, hein, au 1er janvier 2016, il restait 7,4% de place pour des nouveaux déchets nucléaires. Or il en sort tous les ans des déchets nucléaires à haute dangerosité, haute radioactivité, vitrifiés dans ces fameux fûts de verre. Donc enfin voilà, je vais pas lister toute la liste, toutes les critiques et les remarques que fait l'autorité de sûreté nucléaire, mais grosso modo, il pointe une certaine incompétence, voire légèreté d'EDF dans le traitement de cette piscine, de l'entreposage provisoire pour faire refroidir ces déchets nucléaires. Toujours dans le nucléaire, et dans, alors là, c'est pas dans le nucléaire, c'est en lien avec l'énergie. J'ai encore une info radioactive pour la suite. Alors ça, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Vous savez, c'est une agence onusienne qui fait des bilans sur l'énergie. Ils prennent pas parti, ils sont plutôt nucléophiles, mais bon. Voilà, ils ont calculé que cette année, l'énergie, produire de l'électricité le moins cher possible, c'était l'énergie solaire qui était gagnante. Et ils ont remarqué qu'en un an, suivant les pays, ça, le coût a baissé entre 20 et 50%. Aujourd'hui, pour produire un mégawattheure d'électricité grâce à l'énergie solaire, en moyenne, ça coûte $20. Ça écrase tout le monde, même les hydrocarbures pas chers dans certains pays. Ça écrase tout. Donc aujourd'hui, le solaire, c'est le moyen de produire le moins cher l'électricité. Quand on sait que beaucoup de pays ont énormément de soleil et peuvent fonctionner qu'avec ça, ça laisse des perspectives énormes pour l'Afrique, l'Australie, l'Arabie Saoudite et autres. Un petit mot sur Flamanville et l'escroquerie actuelle de Flamanville, puisqu'on a appris lundi que l'autorité de sûreté nucléaire avait autorisé la mise en service partielle du réacteur. On se dit, mais comment ils peuvent autoriser le truc? Il y a des malfaçons partout, rien n'est prêt, c'est une catastrophe, c'est même pas sûr que ça démarre un jour. En fait, ils ont autorisé l'arrivée d'une partie du combustible nucléaire alors que la centrale est loin d'être prête à fonctionner. Et en fait, l'autorité de sûreté nucléaire a plié face à EDF qui demandait ça depuis un petit moment. EDF a toujours la même technique du fait accompli. Ils vont mettre au maximum de choses dans cette centrale alors qu'elle ne devrait pas être autorisée. Ils vont faire pression pour qu'elle soit autorisée quand même. C'est la politique du fait accompli d'EDF. Voilà ce qui se prépare pour Flamanville. Du coup, le risque, c'est que la centrale démarre avec des plein de malfaçons. Et puis je vais terminer par un truc un petit peu, par une dernière petite info. Vous avez peut-être entendu parler de la dislocation d'EDF demandée par l'Union européenne. L'Union européenne demande que EDF soit séparé, notamment l'hydraulique soit sorti, qu'il y ait une partie d'EDF, que EDF garde que le nucléaire, que l'hydraulique soit sorti et vendu à du privé. Et tout le monde s'offusque de tout ça. Il faut comprendre pourquoi on en est arrivé là. En fait, si EDF demande pas d'argent, EDF peuvent garder en fait, l'or hydraulique. Le problème, c'est qu'EDF est endetté à 60 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait n'importe quoi pendant des années. Et ils n'ont pas, notamment, provisionné tout ce qu'il fallait, puisqu'ils sont endettés, notamment pour le démantèlement des centrales. Donc, EDF est au bord de la faillite. Donc, ils vont demander à nouveau de l'argent à l'État. Et quand on demande de l'argent à l'État, l'Union européenne va venir voir s'il n'y a pas de distorsion de la concurrence. Alors, en fait, il y a distorsion de la concurrence depuis des millions d'années avec EDF. Hein. Faut avoir ça en tête. Parce que tous les milliards qu'ils ont reçu, les concurrents ils n'en ont pas reçu. Hein. Donc il y a une vraie escroquerie là-dessus. Mais bon, du coup l'Europe dit, bah attendez, si vous voulez faire ça il faut être plus réglo, transformer EDF en autre chose, séparer la partie hydraulique, la partie nucléaire, etc. Parce que c'est la partie nucléaire qui a besoin d'injection d'argent, etc. Donc ce démantèlement, il est lié au gouvernement précédent, aux ingénieurs, aux directeurs d'EDF qui ont fait n'importe quoi. Il y a un deuxième scénario possible, mais personne n'en parle, c'est qu'on fasse l'inverse. C'est que EDF garde que l'hydraulique et que l'hydraulique du coup reste public et puis que les réacteurs deviennent privés. Le problème, c'est que le gouvernement veut pas ça. Ils sont pro-nucléaire. Les salariés veulent pas ça, parce qu'ils veulent pas passer, la majorité bosse dans le nucléaire, ils veulent pas le passer dans le privé. Et puis personne ne veut acheter des centrales nucléaires, en fait. Alors que c'est très intéressant d'acheter des barrages. Voilà. Donc la problématique aujourd'hui, c'est que l'État va être obligé de gérer cette horreur qu'est l'héritage nucléaire d'EDF, et que ça va entraîner le démantèlement et donc la vente au privé d'un truc qui est rentable, qu'on a financé avec nos impôts en grande partie, qui est la partie hydraulique. Voilà. Malheureusement, personne, ni chez les syndicats, ne se bat pour que ce soit l'inverse, pour que l'hydraulique reste publique et que le nucléaire dégage dans le privé. Voilà, personne se bat là-dessus, c'est triste, parce que c'est un vrai combat idéologique de se débarrasser de ce nucléaire. Comme ça s'est fait un peu en Belgique, hein, on rappelle, Engie possède des centrales nucléaires belges dont ils savent pas quoi faire. Voilà, c'était ma dernière petite info.
Rapidement, je vais vous parler d'alimentation. Tu connais le groupe Bell ? Non, ça te parle pas.
Le Babybel, tu veux dire ?
Voilà, alors c'est marrant, Babybel, hein, tu sais qui s'écrit Babybel. Mais on dit Babybel. C'est marrant, ça t'a jamais,
non,
jamais marqué. Donc,
j'achète pas et je mange pas de Babybel.
Oh, tu as dû manger de ça quand
j'étais petit.
Voilà. Petit. C'est maintenant t'es grand. On a appris que le groupe Bel, qui est un groupe familial, hein, 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires quand même.
Ah, c'est quand même pas mal, Lyon.
C'est pas une petite structure. Hein. Va se diversifier en proposant des produits fromagers sans lait. Alors, je vous laisse aussi pendant tout le couvre-feu, jusqu'au 1er décembre,
tu dirais que...
décider si jamais appeler un produit sans lait un fromage.
Non.
Ou est-ce que... Ben voilà, toi, t'attends pas le 1er décembre.
C'est autre chose.
Moi, je pense que...
Il faut donner des noms à tout. Enfin, moi, je vois pas pourquoi...
Je pense qu'il faut réinventer la nourriture.
C'est ça, il faut se réinventer. C'est très intéressant de se réinventer, d'ailleurs.
Ouais, bon, ouais. Ah, tiens, nous sommes d'accord. Donc, le groupe Bel va se diversifier. Attention, se diversifier. C'est-à-dire que le groupe Bel n'a pas l'intention...
D'abandonner le lait.
...de réduire sa production de lait pour ses petits fromages avec du lait dedans. Je vous rappelle que le Bel, c'est Babybel, mais c'est aussi Boursin, par exemple. J'essaie de vous donner un petit peu des marques que vous compreniez bien.
Oui, 3,5 milliards, ils ne doivent pas vendre que du Babybel, quoi.
Non.
J'imagine.
Mais c'était pour vous expliquer, il n'y a pas du produit fromager hein, chez Bel, hein, mais il y a pomme-pote, des choses comme ça. Mais voilà, c'est donc c'est évidemment avec ce fromage qu'on a pris l'habitude de connaître ce groupe, cette entreprise familiale, comme je le disais. Et l'idée aujourd'hui, c'est de se diversifier, mais pas en annulant la production de lait et donc les fromages avec du lait. C'est plutôt de ouvrir le champ des possibles, c'est pas moi qui le dis, c'est un des patrons de Bel.
Les végétariens, les végétaliens, c'est des mouvements qui commencent à être visibles,
le
véganisme.
Ouais.
Et du coup, ils se disent, il y a de la thune à se faire.
Alors,
c'est ça, hein, c'est pas un changement idéologique, ça tu l'as bien fait comprendre. Du coup, ça veut dire
qu'il y a pas que ça. Il y a depuis plusieurs années maintenant le groupe qui se dit, il faut qu'on passe à autre chose que juste le lait. C'est pas bon pour la planète, les animaux, les vaches chapettent et du coup, c'est pas bon.
C'est résumé, mais oui,
c'est bien ça. Alors, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais. Ah, et du coup, on va pas revenir. Tout le monde connaît l'histoire des vaches et que c'est pas bien. Donc l'idée, c'est pas d'abandonner du tout le lait. C'est pas l'objectif, mais c'est de se diversifier et d'arriver à moitié-moitié avec du lait et sans le lait. C'est pas gagné pour tout de suite.
Mais ils remplacent le lait par quoi ?
Alors, la matière grasse, plutôt issue de la noix de coco ou de céréales comme le colza qui vont créer une matière. C'est pas forcément super.
Oui, j'attends de savoir. Les produits imitants sont des produits plus transformés, donc moins bons à la santé. Souvent avec des additifs pour faire tenir le truc, c'est souvent très mauvais.
Je suis très sceptique sur un certain nombre de produits véganes qu'on trouve aujourd'hui dans les supermarchés, des produits industriels vendus par un certain nombre de marques comme le groupe Bel, hein, mais pas que, qui nous prônent des produits plus nature, plus sains, plus...
Je suis pas sûr que quand on fasse venir de la noix de coco de l'autre bout du monde, ça soit mieux que la vache.
Donc ça pose cette problématique-là, c'est qu'effectivement, d'abord, qu'est-ce qu'on y met dedans ? Il y a peut-être plus de viande, plus de lait, plus de produits qui sont issus de l'exploitation animale. Mais en tout cas, parfois, quand on regarde les étiquettes, c'est pas terrible. Et même s'il n'y a pas forcément des choses mauvaises, c'est pas forcément mieux. Donc voilà, c'est une idée que d'autres ont hein, dans le secteur, c'est de modifier finalement leur catalogue pour pouvoir proposer d'autres choses. Là, l'idée, en plus, c'est de nous mettre du végétal dedans, avec des légumes, par exemple. Donc on va sortir du produit fromager classique. On ne sait pas bien si il y a une vraie stratégie intellectuelle ou simplement une stratégie économique. J'ai du mal à me faire un avis très précis. En même temps, mon avis se fait un petit peu sur une tendance assez forte, c'est que ça reste des produits industriels qu'on trouve dans nos supermarchés et pas sur les étals
d'un artisan.
Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'amène à penser quand même qu'il y a quand même l'idée de se développer, de continuer à faire de l'argent. Et puis n'oublions pas, c'est de partager et d'équilibrer le chiffre d'affaires et les bénéfices, ça va ensemble. Donc ça veut dire que plus l'entreprise elle grossit, plus il y aura quand même de la production de lait. Moi je le vois aussi comme ça. On n'a pas dit qu'on allait réduire et d'avoir un groupe qui serait décroissant.
Ouais non. C'est pas le but du capitalisme.
Donc plus ils vendront des choses, plus ils devront rééquilibrer. Tu vois ? Je ne sais pas. Hein, voilà. On va passer à autre chose. Toute autre chose. Je vais laisser tomber mon dernier sujet. Je vais plutôt vous parler BD parce que j'avais envie de vous parler d'un truc beau, doux et agréable aujourd'hui, de parler de bande dessinée qui ne soit pas politique et de parler d'un auteur que j'aime beaucoup, un auteur japonais qui s'appelle Yaro Abe, que vous connaissez peut-être.
Il est super célèbre.
Puisqu'il est très connu maintenant pour une série d'ouvrages qui s'appelle La cantine de minuit.
Et une série sur une plateforme aussi, du coup, qu'ils ont adapté.
Oui, alors il y a une série effectivement qui a été adaptée et qui est très bien. à regarder, mais je vous invite plutôt à lire, moi,
la BD,
le manga. C'est un auteur qui est intéressant parce qu'il s'est mis à la BD tardivement. C'est-à-dire qu'il a fait autre chose de sa vie. Et puis, un jour, autour de la quarantaine, il est devenu mangaka et il a donc changé de métier et il s'est développé en tant qu'artiste et donc dessinateur. C'est quelqu'un qui, comme beaucoup de dessinateurs, a commencé à écrire très tôt. Et donc, il nous propose cet ouvrage qui s'appelle « Maladroit de naissance ». C'est chez Le Lézard Noir, l'éditeur. C'est une BD qu'on lit donc dans le sens japonais.
C'est un manga, quoi.
Ah, voilà. Exactement, une BD en noir et blanc avec un trait très très fin, comme la cantine de Minuit.
Comme la cantine de
Moi,
Minuit,
j'aime ouais. beaucoup ce trait. Parfois, même, ça paraît tellement vide. On a l'impression qu'il a fait trois traits et il nous a rempli une image.
Ouais, sauf que et puis chaque personnage a une bouille bien particulière.
Mais chaque personnage a une bouille et puis on se retrouve avec d'autres cases qui, elles, vont être particulièrement remplies. Alors, c'est une histoire tout en beauté puisque c'est l'histoire, sa propre histoire d'un enfant pas très doué. En tout.
Ouais, sauf finalement, on peut l'avoir en dessin, même si on le voit pas trop.
Il est timide, pas très grand, pas doué en sport, là où on attend. Mais parce que physiquement, il est toujours un peu malade. Sa petite sœur est finalement bien plus percutante que lui, donc il se retrouve aussi un petit peu embêté. À l'école, on ne peut pas dire que ce soit une flèche pour se faire remarquer. Alors, il a du mal à exister.
Intellectuellement, il est assez bon, parce qu'il est premier ou deuxième de sa classe. Ouais. Mais il est insignifiant, un petit peu comme enfant à l'école.
En tout cas,
il est perçu comme ça par les autres.
Et puis pas doué. Hein. Et il nous raconte donc cette histoire de finalement comment, enfant, on n'est pas doué, maladroit donc. Et en même temps, on a une vie, une existence, et en particulier une famille. Et il va, avec une histoire finalement qui nous parle de rien, nous raconter
l'histoire
à lui, et le Japon, et une famille, un papa un peu déglingué, qui aime vivre en slip.
Ouais, c'est assez drôle.
Qui est décalé aussi par rapport à une modernité du Japon.
Ouais, il s'habille un petit peu à l'ancienne, bizarrement en tout cas.
Il nous parle aussi de la maladie, de la mort, et à travers du rien, comme ça, arrive à nous définir quelque chose de très très beau, d'une sensibilité de l'enfance, de la famille et de l'amour. Absolument, il aime très très fort son papa, très fort sa maman, et c'est aussi comment on se bat pour exister avec des toutes petites choses de la vie, en particulier sur l'enfance. Je trouve cet ouvrage fait beaucoup de bien en ce moment. C'est très agréable à lire. Et puis c'est très beau. Comme tu le dis, c'est très expressif avec des têtes toutes rondes, des coupes de cheveux toutes simples. Mais tout de suite, on arrive à identifier les personnages à travers les pages. Même quand ça fait un moment que je l'ai lu, j'arrive tout de suite à identifier les personnages. Aujourd'hui, en tournant très très vite les pages. Et puis c'est une histoire du Japon et c'est ça que j'aime beaucoup.
Oui, des coutumes, de ce que font les petits garçons, les petites filles à l'école, qu'on ne connaît pas.
Comme je dis, il n'est pas tout jeune, donc c'est aussi une histoire.
C'est les années 60, je crois.
Ouais, 70, sur lequel il va nous raconter, avec le calendrier japonais. Donc ça aussi, c'est assez marrant aussi à découvrir. Et puis, c'est comment aussi on arrive à devenir un moment artiste, donc pas forcément façonné a priori pour, tout en ayant quand même des petites choses, des petits signes, mais pour en même temps, pas du tout façonné, et à être artiste et à être accompagné. Moi, c'est un auteur que j'aime bien, j'aime beaucoup La Cantine de Minuit, parce qu'on y voit toute une série de personnages, et je pense que c'est là où il est très doué, cet auteur japonais, c'est pour arriver à donner vie à tous ces personnages.
Alors pour le coup,
individuellement,
la cantine de Minuit, on découvre les plats japonais et pas les sushis ou les les trucs archi-collus, quoi. C'est un truc assez incroyable là, sur la cuisine.
Et alors, donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui est beaucoup diffusé en France grâce à La Cantine de Minuit.
Ouais,
on peut penser que la série a peut-être aidé largement.
Beaucoup, je suis pas sûr que le terme soit approprié, mais en tout cas, il a un beau petit succès.
Il a un beau succès quand même.
C'est une petite maison d'édition, Le Lézard Noir.
Donc La Cantine de Minuit, on en est quoi, 7 ou 8 tomes. En France, quand tu arrives à vendre 7 ou 8 tomes d'un truc sur des gens... La Cantine de Minuit, si vous ne connaissez pas, le principe, c'est un homme qui tient un de ces établissements qui n'ouvre que la nuit.
Que à partir de minuit.
Et qui ouvre que la nuit, qui accueille tout un chacun qui vient de manger dans son établissement, et il fait à la demande des plats, parce que sinon, sur son menu, il n'y a qu'un seul unique plat. Et c'est une histoire de vie, de rencontre. Ce qui est intéressant aussi, c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit assez importante, quand même. Donc, il va nous parler d'hommes et de femmes qui vivent employés la journée, de prostituées, de personnes transgenres,
de
mafieux.
Sujets, ouais.
C'est-à-dire qu'il nous donne aussi la vie à tout un tas de personnages qui ne sont pas ceux qu'on va rencontrer forcément dans les rues de Tokyo en pleine journée, mais ceux qu'on va plutôt trouver aussi la nuit. et qui se rencontrent, qui sont différents et différentes, mais qui finalement partagent un plat et se racontent des petites histoires de la vie. Il y a un autre ouvrage qu'on peut trouver au Lézard Noir, qui est un ouvrage très particulier, que je n'aurais certainement pas lu si c'était pas de Yarou Abe, c'est-à-dire que si j'avais pas déjà découvert son travail, parce que c'est très particulier. Ça s'appelle Mimikaki, l'étrange volupté auriculaire.
Oh, c'est un truc, non mais... Alors je l'ai pas lu celui-là, mais le sujet c'est... Tu dis la
alors les
la
mimikaki
drogue.
C'est les cure-oreilles japonais, c'est voilà. des tiges en bois ou
donc
en
c'est une BD sur les gens qui se curent les oreilles.
Non, qui se font
curer les oreilles. Ah oui, c'est parce
curer
que c'est
les oreilles. Voilà. Le mimikaki c'est quelque chose qui peut être vite sacré et il y a des établissements qui existent où tu vas te faire nettoyer l'oreille, pas curer s'il te plaît.
Oui,
tu vas plutôt te faire frotter l'intérieur de l'oreille donc avec cet objet et ça amène un certain nombre de sensations. Ce n'est pas un ouvrage érotique, je non, tiens à le signaler, pas... même s'il y a des passages où effectivement certains ou certaines peuvent être trouver un certain plaisir dans ce moment, mais le plaisir il vient surtout du fait d'être dans la zen attitude, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire d'être dans un moment
de décontraction,
aller, voilà. De retour sur soi, à l'enfance aussi, parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup de l'enfance, et pas que sexuel, hein, je tiens à le dire, mais c'est très curieux quand même de lire cette chose parce que ça quand même, ça amène quand même une certaine sensibilité.
Moi, je l'ai pas lu
sur un sens. Hein,
mais c'est quand même, on a l'impression que c'est le Japon quand. Tu regardes ça et tu lis la quatrième de couverture, enfin les trucs où c'est expliqué un petit peu, on se dit, en fait, c'est des extraterrestres, les Japonais, quoi. Il y a vraiment des trucs dans les cultures où on est loin les uns des autres. Et du coup, c'est très intéressant de découvrir des trucs comme ça, complètement inimaginables pour nous. Enfin, il y a plein de trucs dans l'autre sens qui marchent aussi, qui sont inimaginables pour les autres. Hein, mais c'est vraiment très impressionnant ce décalage qu'on peut avoir avec les Japonais, la culture japonaise.
Et que le Lézard Noir nous propose ce genre d'ouvrage, ils sont très curieux.
Beaucoup,
on ne doit pas être très très nombreux et nombreuses à l'avoir acheté. Ça, j'en conviens. Mais c'est à découvrir, et en particulier si vous aimez les oreilles des autres. Je sais pas, il paraît qu'il y a des gens qui font des trucs avec les oreilles. Voilà. Mais deux ouvrages, donc Maladroit de naissance et Mimikaki. L'étrange volupté auriculaire à découvrir dans vos librairies.
Voilà, il est 19h59, passé de 40 secondes à la pendule rouge et noire de la plus rebelle des radios. Nous allons laisser l'antenne
à la petite cuillère.
On se retrouve la semaine prochaine en espérant. Voilà, on s'excuse pour les petits problèmes techniques où j'étais obligé de m'absenter le temps de pousser le câble un peu fort et de changer de micro, histoire que ça remarche correctement. Et puis voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine.
Bah, bien évidemment.
Et couvrez-vous feu bien. Non, je sais pas comment on pourrait. Il n'y a pas de mots.
Je sais pas. Écoute, on va l'inventer d'ici, voilà. D'ici là.
Bye bye.
Ciao.